petit rond au milieu. On grossit encore 5 fois, on voit ce noyau, avec à l'intérieur, ce qui est des idées, on dirait des petites boucles là. Bref.
Ici quoi.
Donc ça c'est la chromatine, c'est où il y a les gènes. Et il s'avère que l'humain a une trentaine, 25 000 gènes, entre 27 000, quelque chose comme ça, gènes. Et en fait, ces gènes codent tous pour des protéines. On grossit encore un petit peu. Une transcription de ce gène passe dans ce qu'on appelle le cytoplasme, qui est la grosse partie vide, qui semble vide, mais en fait elle est pleine de choses, quoi, dans la cellule. Et à cet endroit-là, cette transcription, qui est une copie parfaite de ce gène, est codée en protéine. Alors, qu'est-ce qu'une protéine? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'acides aminés. Il y en a 20. Les petites billes, vous voyez, bon, en fait, ça se promène dans la cellule. C'est ça, les acides aminés. Et sur l'ARN messager, qui est la copie du gène, grâce à un ribosome qui est, on va dire, l'établi qui permet la fabrication de ces protéines, est décodé les bases de l'ARN pour donner une succession de, comme un collier de perles, une succession d'acides aminés qui correspondent à la protéine. On verra plus tard. Donc chaque protéine, en fait, est issue d'un ARN messager qui lui-même est issu d'un gène. Et ce code est universel. Ça marche de la même façon, encore une fois, chez un virus, une bactérie, un champignon, une plante et les mammifères.
Donc. Sauf qu'une plante, on ne peut pas savoir si elles aiment ou pas, mais quand il s'agit d'un bonhomme, et d'un bonhomme qui a une affection physiologique, ben on peut savoir. Et c'est lui-même qui s'en rend compte, et c'est généralement à ce moment-là, à sa grande surprise. Parce qu'il y a à la fois une sensation physique qui accompagne, un ressenti qui accompagne l'écoute, et une compréhension d'un discours mélodique qui se trouve dans la succession des notes correspondant à la protéine. Tila, lila, lila, la, la, tila, lila, la, la, la. La 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 la, etc. La 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 la. À la suite, enfin, c'était donc le début de l'hémoglobine alpha.
Vous boostez un petit peu.
Et l'émission de radio qui avait à peu près ce thème. C'était le pop club de José Arthur.
C'était le pop club. Notre synthèse des protéines, ces mécanismes biochimiques sont parfaitement connus, parfaitement. Pas si parfaitement que ça, en fait, parce qu'il reste des mystères assez étonnants. Comment il s'avère qu'il y a si peu d'erreurs? Parce que là, ça a l'air vide, ça a l'air facile. En fait, ça bouge dans tous les sens. Y a très peu d'erreurs. Parce que sinon, on serait en mutation permanente. Quoi. Autre chose, les chercheurs ont essayé de reproduire la synthèse des protéines, non pas dans le vivant, mais in vitro. In vitro, ils n'arrivent pas à reproduire à la même vitesse la synthèse de protéines qu'elle se déroule in vivo. On ne sait pas l'expliquer. L'hypothèse, donc, c'est qu'il y aurait une régulation génodique. Les acides aminés qui, eux, sont d'abord libres au niveau du cytoplasme, de cet espace, dans un premier temps, ils bougent dans tous les sens. C'est le mouvement brownien qui les anime. Puis, ils sont attachés à l'ARN de transfert. En fait, il n'est pas signalé mais il y a une molécule intermédiaire. Et là, du coup, qui est beaucoup plus grosse que l'acide aminé. Du coup, ils sont ralentis. Puis, enfin, ils sont accrochés au ribosome, qui, alors je sais pas le facteur, si c'est 1000 fois plus gros que l'acide aminé, et donc là ils sont particulièrement ralentis. Là, si on calcule la fréquence la fréquence associée au ribosome qui s'est énormément ralenti, au ribosome, pardon, à l'acide aminé qui s'est énormément ralenti, on trouve une fréquence de longueur d'onde proche de sa taille. Donc, il n'est pas improbable que là, l'acide aminé émette une onde. Je ne sais pas si c'est clair.
Alors, peut-être je peux essayer de prendre le problème par un autre angle. Vous avez dû entendre parler de la théorie de la relativité et de E égale MC2 et que c'est un problème qui est, que c'est une question qui est aujourd'hui importante vu que l'ordre du monde dans lequel on vit a été réglé depuis la Seconde Guerre mondiale par la peur du nucléaire et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est assez fragile comme base. Eh bien, d'où vient la relativité? Elle vient de la compréhension du fait que les lois physiques sont invariantes par rapport à un déplacement infinitésimal de repères. C'est-à-dire qu'on regarde les choses à un moment donné ou à un autre moment, on va avoir des correspondances. Et ça prédit l'existence d'une onde qui est la lumière et d'une constante qui est associée, qui est la vitesse de la lumière. Et la formule de dilatation des temps à laquelle j'ai fait allusion, s'écrit T' égale T moins Vx sur C2 sur racine de 1 moins Vx sur C2, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse qui est associée, qui est égale à C2 sur V, où C, c'est la vitesse de la lumière, et V, c'est la vitesse de la particule, et C2 sur V, c'est la vitesse de l'onde de Broglie, qui est plus grande que la lumière, donc, ce qui est un point qui soulève des questions depuis les débuts de la physique du XXe siècle. Eh bien, ce qui soulève en fait comme question, c'est qu'il se passe la même chose pour un changement d'unité de mesure que pour un changement de repère. Il y a une invariance des lois physiques par un changement infinitésimal d'unité de mesure. Et ça prédit aussi l'existence d'une onde qui est une onde d'échelle. Et qui fait apparaître des constantes, là aussi, qui sont des nombres purs, mais qui donnent des rapports d'échelle entre notre échelle et l'échelle atomique, tel que, par exemple, un nombre comme le nombre d'Avogadro, qui est dans les 10 puissance 23, donne un ordre de grandeur qui n'est pas arbitraire entre notre échelle et l'échelle atomique. Et donc, il y a une possibilité de communiquer depuis notre échelle vers l'échelle atomique. Mais tout ce que j'ai réussi à faire avec ça jusqu'ici, c'est de soigner avec la musique. Bon.
Du coup, acide aminé après acide aminé, ben ils émettraient une succession de fréquences leur correspondant. Alors, oui, mais ça fait quoi tout ça?
Et on peut capter ces fréquences.
On est dans des longueurs d'onde, dans des fréquences super hautes, quoi. Il n'y a pas d'outil aujourd'hui pour. Et quelque part, si on avait l'outil, et si c'est une réalité qui est revendiquée en l'occurrence. Ça doit être une polyphonie colossale parce que à l'intérieur d'une cellule ou d'un organisme vivant, c'est... Mais vous allez voir comment. Bon, on va aborder un petit peu ce. Un exemple. Deux protéines humaines, d'ailleurs très proches. Bon, en l'occurrence, c'est des protéines humaines, hein, cytochrome oxydase et cytochrome C, deux protéines qui participent de la respiration. Elles sont indispensables dans l'assimilation de l'oxygène. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui lisent la musique, de la musique. C'est structuré musicalement, c'est pas du n'importe quoi. Alors ça peut plaire, ça peut déplaire.
Comment on le sait si on les entend pas?
Parce qu'on peut calculer la fréquence et rendre audible en transposant notre échelle, ce qui revient à faire le changement d'échelle, donc, entre nous et l'échelle atomique. La première fois que j'ai fait ça avec une protéine, ben, j'ai été très surpris par la musicalité que ça avait. Ti la 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 etc.
Excusez-moi, et le rythme?
Hein? Allah. Et donc, le rythme, effectivement, dans le cas de l'alpha-antitrypsine, là, c'est ce que je vous ai chanté, qui est la première protéine que j'ai été amené à décoder, eh bien, il y a un rythme des groupements de notes, toutes les quatre notes, qui s'impose de lui-même, qui s'est imposé pour moi lorsque je l'ai faite pour la première fois, parce qu'il se trouvait que c'était une protéine qui pouvait aider à supporter les effets des gaz lacrymogènes, etc., qu'on prenait en mai 68.
Puisqu'on n'entend pas les fréquences, vous disiez pourquoi les... En fait, le fait que ça se synchronise sur une gamme chromatique tempérée permet cela. Parce que justement, le principe de la gamme chromatique tempérée, c'est qu'elle est invariante d'échelle. Que vous jouiez un morceau dans les graves ou trois octaves plus haut, bien sûr, ça sera plus grave, plus aigu, mais le morceau, vous le reconnaissez. Et ça, c'est une notion qui est même importante en physique, l'invariante d'échelle. Donc, la gamme chromatique tempérée est une construction mathématique. Elle sert à faire des instruments. Mais elle est peut-être bien plus fondamentale que ça, par le fait justement qu'elle soit invariante d'échelle. Donc, qu'est-ce que la génodique ? C'est un phénomène ondulatoire propre à la synthèse des protéines. Les acides aminés qui composent, qui sont les composants de base des protéines, sont des molécules qui, dans certaines conditions, peuvent émettre une onde. Et ces ondes ont un rôle de régulation complémentaires des processus biochimiques lors de la synthèse des protéines. Deux applications, principalement. La prédiction des fonctions de ces protéines par l'étude des homologies, on va en parler, vous voyez, c'est passionnant. Et enfin, la régulation de processus biologiques, ce qu'on fait effectivement en travaillant sur les plantes ou en écoutant l'antitrypsine quand on a des problèmes de...
Ou complémentairement, la prolactine, si c'est des problèmes pour l'allaitement, par exemple.
Pas la peine, c'est bon.
Donc si une femme écoute cette musique, elle a plus de lait.
Ah, elle peut.
Elle peut. Normalement, oui. Mais les gens sont... le symptôme peut être associé à diverses causes. Et ça peut être autre chose aussi. Mais par contre, c'est la personne qui peut la reconnaître. Et il faut y faire attention parce qu'il peut y avoir des effets secondaires.
De lait.
Du genre trop de lait pour ce que la personne a besoin.
Oui. C'est le faire venir en arrière, ça. À l'enfance.
Il y a un peu de ça. Hein.
En tout cas, moi, j'ai eu le droit qu'au biberon, parce que à cette époque-là, il y avait c'était à la mode de penser que il ne fallait pas donner le sein, c'était pas bien, il fallait donner le biberon, c'était...
pudique.
Hein?
C'était plus pudique.
Oh, il y avait un marché qui était créé, quoi. Un marché a créé.
Non, c'était plus scientifique. Alors il y a deux choses dans votre question. Il y a la structure rythmique elle-même et le tempo. Alors le tempo est celui de la synthèse des protéines de l'ordre de 4 à 6 aminés par seconde, entre 2 et 8, ça dépend lesquels. Et celui-là est assez fixé, même si...
il y a des exemples où ça semble le tempo est un peu plus...
Oui, c'est ça. Quand on en a besoin de façon urgente, par exemple, si on se cogne et qu'on a besoin de collagène, il faut pouvoir synthétiser les glycines assez vite. Les glycines. Et donc, dans ce cas-là, ça va aller plus vite. Le collagène va se synthétiser plus vite que s'il n'y en a pas forcément besoin, quoi. Et ça, par exemple, c'est une constatation qui a été faite par différentes personnes et qui gagnerait à être reproduite dans un laboratoire pour mesurer effectivement la synthèse de la protéine à ce moment-là.
L'effet dose, entre guillemets, est plus important et même plus difficile à appréhender. Pour vous donner une idée, dans le terrain, en agriculture, c'est de l'ordre de 1 à 2 diffusions par jour de 5 à 6 minutes.
Pas plus.
Si on passe à 30, 40 minutes, 1 heure, on va avoir les effets inverses, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on a appris expérimentalement pendant la quinzaine d'années. Et sur l'humain, je voulais le souligner à juste titre, c'est vraiment la personne qui a le ressenti et qui, elle, finalement, sait si ça va.
Et puis, il y a souvent un ressenti d'ordre physique, par exemple, une montée de lait pour la prolactine, et le ressenti d'ordre musical, par exemple, le passage mozartien de la prolactine. C'est deux choses différentes et qu'on observe parfois l'une et l'autre.
Ah, c'est plus l'inspiration, peut-être.
Dans la musique composée par Mozart pour la naissance de sa fille, au moment de la naissance de sa fille, il était à la salle à côté, et c'était le thème de ce qu'il composait figurait dans un récepteur aux cytokines.
Un récepteur aux cytokines.
Qui était impliqué dans l'accouchement, donc.
Oui.
Il l'a pas fait exprès.
Il l'a pas fait exprès, mais il était inspiré.
Il l'a pas fait consciemment. Quoi. On va savoir. Ça se trouve, il était devant. Hein.
Mais au niveau de l'agriculture, est-ce que ça change le goût des tomates, par exemple ?
Ah ben oui.
Alors ça change. Une tomate qui, physiologiquement, du moins génétiquement, est calibrée pour pas faire de goût, c'est pas les protéoïdes qui vont la transformer.
Mais par contre, quand on a fait plusieurs expériences avec un inhibiteur de virus de mosaïque de la tomate, et pas seulement on est surpris de la mélodie, parce que le virus est quelque chose d'assez évolué, et la mélodie inhibitrice est quelque chose de particulièrement mélodieux. Donc pas seulement on a ça, mais on a observé une amélioration du goût et même un goût reconnaissable et très particulier qui est associé à la tomate qui a été stimulée musicalement pour inhiber le virus qui bridait sa synthèse.
Ces effets, effectivement, on les observe assez régulièrement sur le terrain. L'hypothèse, c'est qu'en titillant ces mécanismes, en fait, on permet à la plante d'exprimer au mieux ce qu'elle est capable de faire. Une plante qui est dans un environnement où elle a tout ce qu'il lui faut, elle a suffisamment de lumière, elle a suffisamment de chaleur, on n'apporte rien. Par contre, une plante qui est plus livrée à elle-même parce qu'il y a les variations climatiques, parce que là, effectivement, on voit des différences vraiment très significatives. Une salade d'automne, par exemple, cultivée avec des protéodies, va être prête en 2 semaines. En général, c'est 8 semaines, 8 à 12 semaines. On va gagner près de 3 semaines à l'accueillir. Non seulement ça, mais en plus, elle va se conserver beaucoup mieux dans le temps.
Et ça, on sait pourquoi.
Bah,
nous, les défenses immunitaires de la plante.
Bah, peut-être tout simplement parce qu'elle va mieux.
Elle va
mieux.
Alors, c'est-à-dire que la plante ne va pas bien, elle est attaquée par un virus qui l'empêche d'aller bien, mais qui donne en même temps l'information qu'il faut, sur laquelle il faut agir pour qu'elle aille mieux.
Et ça, c'est le principe des homologies. On va essayer ici, vous avez 2 protéines qui participent de la respiration. Et bien, la faim, ce qui est entouré, vous avez des acides aminés qui sont les petites lettres ici, qui sont différents, mais les notes, c'est les mêmes. 5 notes suffisent à envisager une interaction entre ces 2 protéines. Ça veut dire que quand la première est synthétisée dans le vivant, elle stimule la seconde, et inversement. Alors, ça semble ridicule, 5 notes. Mais ça, on les jure. Rechercher ces homologies, ça nous permet de prédire les effets secondaires.
Ici, j'ai inhibiteur à L2 mosaïque tomate. Attends. Ben oui. C'est pour inhiber un virus de tomate que.
Alors, ce qu'on sous-entend, en fait, c'est que cette mélodie va avoir des homologies avec des protéines de la tomate qui vont l'aider à se développer.
Ça veut dire que ça n'agit pas sur le virus, mais sur la défense immunitaire.
C'est pas sûr. Les deux.
Non,
les deux.
Non, non, non.
Il peut y avoir les deux.
Apparemment, il y a les deux.
Là, mon collègue Victor, en travaillant sur une protéine de floraison, hier, parce qu'on s'oblige à regarder les homologies, en fait, a trouvé que... Donc, c'est une protéine de floraison, on a un très très bon résultat. Il a trouvé que les homologies, en inhibition, on trouvait une phénylalanylase liase, une PAL, une phénylalanylase
liase,
c'est ça, qui est en fait une molécule de défense. En fait, ça sous-entend que quand la plante est en floraison, elle va vers la floraison, ses défenses sont inhibées par ces homologies. Et il s'avère que c'est la période de sensibilité la plus importante de la plante au niveau d'attaque de problématiques cryptogamiques essentiellement. L'oïdium va tomber sur les fleurs, le mildiou aussi tombe sur les fleurs, c'est catastrophique.
C'est quoi ça? C'est des
champignons. Des petits champignons. Un autre exemple d'homologie, c'est un autre cycle métabolique connu, bon, voilà. Le cycle de Krebs. Il y a 8 protéines dedans, et vous avez les 8 protéines en haut et en bas là. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles ont quasiment toutes des homologies. Si on fait statistiquement, vous voulez le faire, mais ça va être un peu long et un peu rébarbatif. statistiquement, il y a une chance sur des milliards de milliards de milliards que ça soit possible. S'il y a des amateurs qui s'intéressent de faire le type de stats, une protéine, elle fait grosso modo 200 acides aminés. Une homologie, elle commence à 5. 5 notes suffisent. Et donc ça veut dire que si vous avez 5 notes, vous avez une chance sur 10 d'avoir la première, une chance sur 10. Donc vous avez en fait, pour une combinaison, 10 puissance moins 5, une chance sur 100 000 pour avoir 5 notes. Mais comme il y a 200 acides aminés, vous avez 200 fois. Voilà. Donc ça fait en fait 2 à 10. Ça fait une chance sur 1000, concrètement. Pour une. Mais cette chance sur 1000, comme vous l'avez sur la première, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, déjà vous êtes à 10 puissance moins 15. Vous êtes à 1 million de milliards. Une chance sur 1 million de milliards. Et après, comme vous les avez encore sur la suivante à 1, 2, 3, 4, 5 reprises, vous remettez ce facteur-là, et la suivante, et la suivante, et la suivante. Donc vous allez arriver à des milliards de milliards de... Une chance sur... Alors c'est peut-être le nombre d'Avogadro, hein. Il faudrait peut-être qu'on l'affine, ce chiffre.
Ben oui.
Et ça, c'est un type d'étude qui est vraiment généralisable. Alors il faut des outils, il faut du temps, il faut des personnes.
Mais ça donne quoi en pratique?
Oui, ce que je vous mentionne.
Ça, c'est de la recherche,
la science. Ah ben, ça permet de faire reconnaître l'approche. Aujourd'hui, l'approche n'est pas reconnue scientifiquement. C'est un détail, mais. En résumé, oui.
Ben, ça dépend par qui.
D'accord.
Pour un être vivant, j'imagine comment il l'entend. Il a le sens pour. Oui. Et comment elle perçoit le son.
Ah.
Et si la musique, c'est la fréquence, si on la multiplie, on finit... au bout d'un moment, les fréquences, elles deviennent la lumière aussi. Pourquoi on n'essaye pas de communiquer?
Il y a l'équivalent. Alors, la mise en œuvre est plus compliquée. En fait, Joël, il a l'équivalent. L'équivalent qui a de correspondance entre acide aminé et note, il l'a au niveau de la gamme chromatique, de la gamme de la lumière. À un acide aminé correspond une couleur particulière. Par contre, la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée.
Ah. Et la plante, elle va percevoir le son plus par ses racines, plus par la partie
Là, la question reste entière en termes de perception. Le son, c'est quoi? C'est une vibration de l'air, on est d'accord. C'est l'air qui bouge.
Bon. Et l'onde sonore est transformée par conductance en onde électrique. Chez nous, ça se passe comme ça dans l'oreille. Et c'est l'onde électrique, le cheminement électrique, auquel est associé pas seulement une onde monochromatique, mais une onde d'échelle. Et qui va effectuer la transposition d'échelle en fait que ça implique, parce que vous avez une correspondance entre l'échelle à l'échelle de l'organisme entier et à l'échelle moléculaire.
On l'observe. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui... je décrirai un petit peu le protocole qu'on a mis en œuvre. Et bien sûr qu'il y a des hypothèses là-dessous. Il n'empêche que les effets sont réellement là. En résumé, on fait un tour. Donc au cours du processus de synthèse des protéines, l'acide aminé peut avoir un comportement ondulatoire. Les acides aminés se synchronisent sur une gamme chromatique. La répartition des intervalles des intervalles musicaux, suit des lois de consonance musicale. Tout à l'heure, Joël a parlé de Mozart. Vous connaissez certainement le thème des quatre saisons de Vivaldi, du printemps des quatre saisons de Vivaldi. Je suis très mal.
Et bien ça se trouve dans l'actine.
Mais l'actine, c'est dans l'hémisphère nord, la protéine la plus synthétisée, au printemps. Parce que c'est une protéine structurelle du végétal. Quoi. Comme tous les végétaux poussent au printemps, ben c'est l'une des plus synthétisées. Vous parlez d'intuition ou des exemples comme ça, il y en a.
Vous dites que l'approche n'est aujourd'hui pas reconnue. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Parce que ça paraît.
Ben, ça dépend ce qu'on attend par reconnaissance scientifique. Il y a eu quand même un jugement de l'Office européen des brevets qui a validé, c'est-à-dire qui a reconnu l'effet spécifique sur la synthèse des protéines. Mais il y a eu extraordinairement peu d'articles dans les revues scientifiques et comités de lecture sur qui ont appliqué pour leur compte. Il y a eu un article qui a été écrit par deux Turcs dans une revue canadienne médicale. Il y a eu un médecin un médecin nîmois qui a fait toute une étude.
Vous-même, vous avez écrit des articles qui sont parus.
Oui.
Mais ce que vous dites, c'est que ça n'a pas été repris autant que...
Moi, je me suis pas... Comment dire... J'ai pas essayé de convaincre à toute force ceux qui n'avaient pas envie d'être convaincus. Quand j'ai appris à faire de la science, on disait que la science, c'est ce qui était reproductible. Donc, c'est ce que je me suis attaché à montrer. Maintenant, on dit que la science, c'est ce qui est publié dans les revues à comité de lecture. Donc, on est passé d'un système démocratique par essence à un système qui ne l'est plus, quoi.
C'est pas si facile, non. Olivier Gallet, que vous aviez vu tout à l'heure, c'est le directeur du labo de l'université de Cergy-Pontoise, avec qui on a un partenariat depuis 6 ans, cherche à publier le papier. Les résultats sont là. Ils sont là depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on cherche à publier. Qu'il cherche à publier. Il a été voir Nature. Je parle comme ça qu'on dit. Nature.
Il a écrit, oui. Qui lui ont dit qu'il fallait faire encore d'autres contrôles.
Pas tout à fait, non. La Nature lui a dit qu'il le trouvait bien courageux de travailler sur un sujet pareil.
Mais à cause de quoi ? Des labos ?
C'est pas dans le moule, ça. Voilà. Sachez que le partenariat qu'on a avec Cergy-Pontoise, c'est du donnant-donnant, vous l'appelez comme ça, c'est après partagé, quoi. Il n'y a pas de financement. Lui, il a l'intelligence en tant que chercheur de s'allouer dans son budget 10% de son budget pour faire ce qu'il a envie. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Un chercheur aujourd'hui institutionnel, en fait, il court après des financements en permanence. Et alors, il va leur jeter la perle, c'est pas si facile que ça non plus pour eux. Mais du coup, l'ouverture à de nouvelles approches est assez.
Et alors, il faut aussi noter que la morale, l'éthique personnelle des gens a changé, puisque à l'époque où j'ai fait ça, on valorisait le fait de ne pas être dépendant pour d'un financement, par exemple, pour pouvoir être mieux sur sa route, et qu'il se produise des événements comme la synchronicité dont on vous a parlé tout à l'heure pour l'hémoglobine. C'est un peu la condition. Et aujourd'hui, on dit que non, la condition pour qu'une recherche soit valable, c'est qu'elle soit financée. C'est-à-dire qu'on vous met en...
J'essaie de comprendre, parce que moi je ne suis pas du tout scientifique et j'ai un peu de mal à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, on a vu là, vous avez quand même, vous êtes passé aux informations. Etc.
Ah ben on a une notoriété.
Voilà,
si petit, on a une notoriété remarquable.
Vous êtes connu et par exemple, ce qu'on voyait, les maraîchers qui utilisaient, la boîte.
Oui, c'est un diffuseur de son.
Un de ces diffuseurs de son, mais vous avez une source, j'imagine que vous avez une une société, que vous,
oui.
vous commercialisez oui. les produits de vos, votre recherche.
Tout à fait.
Oui. Donc, en fait, et satisfait ou remboursé.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est à la limite, même si on n'est pas dans le circuit classique de la. Enfin, des labos financés par je sais pas quoi, enfin, ouais. je connais pas. En même temps, il y a, comme tout, moi je suis entrepreneur, on est dans une découverte, quelque chose qui change quelque chose. Bah, voilà, vous avez des clients, ça marche, vous avez de la couverture. Quelque part, c'est pas grave que l'approche soit. Enfin, c'est pas, du moment que ça marche, qu'il y a des clients,
c'est pas grave. Il y a tout simplement la santé humaine. Un détail. Et pour l'aborder, bah, il faut des médecins, il faut des équipes de recherche. Il y a un travail colossal à faire.
Les maraîchers, par exemple, vous voyez les maraîchers. Si eux, ils sont contents, ils ont l'impression que ça marche bien pour leur.
Certains maraîchers vont
se. C'est ce que je dis que ça fait.
Comment ?
C'est ce que.
Ah oui, mais c'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils sont 200.
D'accord. Mais en fait, vous avez une structure, vous commercialisez.
Tout à fait, tout à fait.
Ah, complètement, oui. Et c'est comme ça que vous grossissez.
Tout à fait.
C'est juste.
Tout à fait.
Dans la suite, ça veut dire que vous attendez de la recherche, des applications dans la santé humaine.
Bien sûr.
Ben, en fait, ça se passe. Ça a été tellement surprenant, ces effets, ces observations, qu'il y a des observations qui se sont multipliées de façon privée, de façon très discrète, parce que je me souviens d'avoir reçu un médecin qui avait vérifié. Pour son compte, l'efficacité pour une maladie qui rentrait dans le cadre de sa spécialité, et qui m'a dit, mais c'est légal de la médecine que vous faites là.
Est-ce qu'il l'a écrit ? Mais dites-moi, je voulais poser une question. En fait, est-ce que les effets secondaires, par exemple, si un maraîcher se trompe au niveau du temps ?
Alors, c'est pas lui, c'est nous.
Ou c'est vous ? D'accord. Est-ce que les effets secondaires peuvent, sur les tomates, par exemple, ça peut avoir un effet néfaste sur la santé ?
Alors, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors si on déjà, en termes de... L'usage des protéoïdes n'est pas anodin. Ça, c'est clair. Quand on travaille avec des agriculteurs, déjà, les diffusions, il y a des précautions d'utilisation. On fait des diffusions le matin, le soir, quand il n'y a personne sur le terrain. Ah. Donc, bon, c'est les règles. Et les temps de diffusion et les séquences, on les maîtrise. Une limite à cet exercice, c'est justement, on ne peut pas essayer n'importe quoi. Tout ce qu'on essaye ou on teste chez eux, c'est quelque chose qui est déjà éprouvé. Classiquement, un chercheur, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais essayer tel produit. J'en mets beaucoup, j'en mets un peu moins, un peu moins, un peu moins, et je vois ce qui se passe. Ben ça, je ne peux pas me permettre de faire ça chez un vigneron si je ne sais pas si après il va avoir du raisin ou pas, quoi. Donc, c'est pour ça aussi. Aujourd'hui, on met 4 ans pour caler une application, à peu près. Et un an, c'est un résultat. Parce que c'est une saison. Mais bon, quand on est parti il y a 12 ans, on a réussi à se structurer autour de Genodix.
Quand Genodix est parti il y a 12 ans. Parce que Genodix, donc, c'est une petite société qui traite des applications en agronomie et dans le végétal. Il n'y a pas les problèmes qui se posent de vérification sur le plan médical, etc.
Alors, sachez qu'on a été contrôlé par la DGCRF. Les chambres d'agriculture nous ont envoyé la police, donc bon, ça va, tranquille. Hein. On a une autre, mais sans pas de problème, quoi. On a une chance, ce sont des musiques. Et il se trouve qu'en agriculture, tout ce qui est ondulatoire ne pose pas de problème. En fait, il faudrait interdire Johnny Hallyday et les chants des oiseaux. Et donc ça pose problème, quoi. Donc c'est la seule chance que l'on ait.
D'ailleurs, les chants des oiseaux, ils sont réprimés. Hein. Ben, y a une diminution du nombre d'espèces.
Ah, oui.
Est-ce qu'on peut espérer un jour que ce soit mis en œuvre à grande échelle ?
On espère, on œuvre pour ça. Notre démarche, notre projet, on va dire.
Et puis, j'y suis d'autant plus incité que, comme on n'y échappe pas, hein, la vieillesse, la maladie, et pam, il faut que ça me tombe sur une maladie qui soit... dont on ne connaît pas la cause, et ce qui fait que moi j'ai besoin aussi physiquement que d'autres travaillent puissent apporter leur grain pour que je puisse pleinement développer ce travail.
Notre objectif avec la création de Genodix, aujourd'hui on est 60 actionnaires qui avons financé ce 67 même, qui avons financé le démarrage donc il y a 12 ans, c'était de pouvoir développer une activité et financer une fondation qui, elle, s'occuperait de la formation à l'usage des protéodies et lirait des partenariats de recherche.
C'était notre but affiché. Et puis Genodix s'est développé, a eu des applications qui lui permettent de se subvenir à ses propres besoins, ce qui est déjà très bien. Mais c'est pas Google. C'est pas...
On n'est pas Google.
Est-ce que vous êtes rapproché de gens comme Google, justement?